RMC Intégral Tour.
On continue de se rapprocher de l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France. 13 km encore à parcourir. Avant de faire un nouveau point sur la course, c'est l'heure du jeu Tour de France RMC. Aujourd'hui, je vous offre la possibilité de gagner le jeu Pro Cycling Manager, simulation officielle du Tour de France sur PC, le jeu de société L'échappée infernale, le livre Jour de fête, la grande histoire du Tour aux éditions Chroniques et surtout deux places VIP pour assister à l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées pour tenter de gagner ce superbe pack cadeau. Appelez le 3216 et faites la touche 6 ou envoyez RMC par SMS au 73216. Bonne chance, moins de 13 km de l'arrivée, sous le ciel bleu retrouvé de Nîmes, le Gard qui accueille le Tour de France. Et les nuages ont laissé la place au soleil pour fêter l'arrivée du Tour. Fred, 12 km de l'arrivée et nos deux hommes de tête font de la résistance, le top course.
RMC Top Course.
Sur les routes du Gard désormais, avec la pluie qui continue de tomber un peu moins fort que ces derniers temps, Jack Bauer et Martin Helmiger qui font de la résistance à 12 km 300 de l'arrivée. Ils résistent à un peloton lancé à très vive allure. On prépare une arrivée au sprint pour le champion d'Allemagne, André Greipel. On aperçoit les Lotto Bellisol, les maillots rouges et noirs de la formation belge qui prépare le terrain pour Greipel, également présent à l'avant du peloton. Les Katyusha d'Alexander Kristoff, vainqueur l'autre jour au sprint à Saint-Etienne. Et puis, évidemment, les Giant Shimano, le maillot noir et blanc de Marcel Kittel, qui vise aujourd'hui une quatrième étape. Il va tenter d'asseoir son statut de meilleur sprinter du monde. On est à 12 km de l'arrivée, 53 secondes d'avance pour le duo tête Bauer-Helmiger.
Cyril, il faut rappeler que une première hiérarchie du sprint s'était développée en début de Tour de France. On s'en était aperçu avec la domination de Marcel Kittel, Greipel dans un deuxième rideau avec des garçons comme Kristoff et puis Cocquart et Demar également. Mais on est passé par la montagne, on a passé beaucoup de kilomètres. Est-ce que la hiérarchie est la même comme ça en fin de deuxième semaine sur le Tour de France?
En règle générale, elle ne se modifie pas énormément, les sprinteurs étant très proches les uns des autres, il peut y avoir des inversions, mais en règle générale on va retrouver Kittel, on va retrouver Greipel, on va retrouver bien sûr Peter Sagan. Alors un de ceux qui est véritablement arrivé sur cette deuxième partie de Tour de France, c'est Alexander Kristoff et c'est Trentin. Donc voilà deux coureurs qui sont arrivés, on va dire en deuxième semaine, mais la hiérarchie reste quand même la même.
D'accord, donc Kittel, a priori, grandissime favori pour la victoire d'étape dans quelques minutes.
Oui, d'autant que Degenkolb semble avoir aussi, vous savez que Degenkolb avait été blessé sur des chutes avant d'attaquer la montagne, il semble avoir retrouvé toutes ses jambes, et pour Kittel, c'est quand même un atout énorme.
Bien sûr. Alors, tu le disais tout à l'heure, Fred le disait tout à l'heure, Arnaud Demar semble encore un peu souffrant, on rappelle qu'il a des problèmes gastriques, a priori, il ne devrait pas disputer le sprint tout à l'heure, le champion de France.
Ben non, apparemment, il est lâché.
Oui, il est même lâché. Quid de Brian Cocquart? Sait-on, Fred, par exemple, comment il a passé la montagne et s'il a toujours ses jambes du début de tour? Non, difficile à savoir, mais a priori, il est pour l'instant toujours bien placé dans ce peloton.
Oui, au classement général, on ne parle pas de Brian Cocquart, évidemment, 102e du classement à plus de 2h30. Cocquart qui, on le rappelle, comme Arnaud Demar, à 22 ans, dispute son premier Tour de France. A priori, il est bien, il est pas mal, il est sinon frais, au moins pas complètement cramé, comme disent les coureurs, puisqu'il a fait la nique tout à l'heure au sprint intermédiaire de la Galine, me semble-t-il, juste avant Saint-Rémy de Provence.
Oui, exact, exact.
Et il a fait la nique au sprinter, même si ce sprint n'a pas été vraiment disputé.
Ça n'est pas une référence, parce qu'il n'y a pas eu véritablement de sprint.
Non, non, c'est ce que j'étais en train de dire, Cyril. Je tentais d'aller au bout de mon explication. Non, non, mais on est bien d'accord là-dessus. Ce sprint intermédiaire a perdu de l'importance sur les derniers jours, Cyril. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui vampirise totalement le classement par points, c'est Peter Sagan. Oui. Est-ce qu'il a encore de l'intérêt, ce sprint intermédiaire, du coup?
Non. Honnêtement, non, il y a 170 points d'écart entre Peter Sagan et Brian Cocquart, 170 points pour le nombre d'étapes où on peut aller chercher des points est tellement réduit que en aucun cas Brian Cocquart pourrait revenir sur Sagan.
Toujours est-il que Cocquart est allé se dégourdir les jambes tout à l'heure, il lui reste du jus, il lui reste la giclette du sprinter. Peut-être tirera-t-il son épingle du jeu, lui qui en début de Tour de France avait réalisé de place de 4.
Oui, il reste bien placé en tête de peloton, il est très attentif.
Très bien. Anto54 sur le hashtag RMC Live qui nous demande si l'arrivée pourrait correspondre à un profil comme celui de Samuel Dumoulin, Cyril.
Non, là on est sur un parcours, sur une arrivée totalement plate. Hein.
Oui, Dumoulin, c'est plus les arrivées en faux plat, les arrivées en faux plat montant.
Hein. Oui, avec son... Et là on est toujours dans le rapport poids-puissance. Hein. Plus ça monte et plus les poids légers, style Coquard par exemple, ont des chances de pouvoir jouer avec les gros cubes.
Un final tout plat. La principale difficulté dans les 5 derniers kilomètres, c'est pas moins de 5 giratoires. 2 virages simplement en 5 kilomètres, 2 virages à droite sous forme de demi-tour. C'est un final qui pourrait être un peu casse-gueule, comme disent les coureurs dans le final. Et pourquoi pas Peter Sagan. Dumoulin est à droit sur un vélo également, mais a priori, il n'y aura aucune difficulté en termes de pente. Samuel Dumoulin qui effectivement aurait sans doute préféré un final un peu plus compliqué, un peu plus dur.
Tiens Cyril, une information pour toi. Brice sur le hashtag RMC Live nous dit: je confirme pour Cyril, j'habite le sud Morbihan, il fait 24 degrés et grand beau aujourd'hui, hein, donc il fait beau en Bretagne.
Pierre-Yves Leroux va être très heureux.
Ah, oui, mais Pierre-Yves Leroux nous chambrait tout à l'heure, nous les sudistes, en disant que décidément chaque fois qu'il venait dans le sud, il faisait pas beau. C'est vrai qu'à Nîmes, là le soleil est revenu quand même.
Oui,
hein,
le soleil est revenu. Hein,
bon, cette fois-ci il est là. Et donc on va arriver sur une route non pas complètement sèche mais un peu moins humide que tout à l'heure, Fred.
Une longue ligne droite de plus d'un kilomètre, la rue de la République qui longe les arènes de Nîmes. Souvenez-vous que la dernière fois qu'on était arrivé à Nîmes, c'était en 2008. C'était le bolide de l'île de Man, Mark Cavendish, qui s'était imposé sur un final similaire. Voilà, la 15e étape du Tour 2014 ne devrait pas, absolument pas, échapper à un sprinter.
Et on espère qu'il n'y aura pas de chute. C'est vrai que les chutes interviennent souvent, Lucho, en début de Tour de France. Après, lorsqu'on arrive comme ça, fin de deuxième semaine et toute la troisième semaine, il y en a beaucoup moins que lors des premiers jours. Comment on peut expliquer ça?
Il y a toujours un petit manque de concentration, puis la fatigue étant là, avec les efforts à répétition chaque jour, les étapes alpestres qui viennent de passer, tout un condensé de choses qui font que dans la fin de semaine, la deuxième semaine, il y a du relâchement un petit peu, hein, c'est normal. Et là, mais bon, les coureurs ont quand même énormément de chance parce que la route est complètement sèche pour aller à Nîmes. Alors donc ça, c'est quand même très très bon pour les coureurs.
Alors, je sais pas si ce sera partout la même chose, hein, parce qu'il y a eu des averses, mais effectivement,
oui, mais a priori,
c'est en train de,
là, ça a l'air pas mal.
C'est en train de sécher. Tiens, on va justement faire le point avec Georges sur la moteur MC qui va nous dire si la route est véritablement sèche, Georges.
Non, elle est pas encore sèche, hein. Elle est encore détrempée, mais c'est vrai qu'il y a certaines portions qui ne sont plus trop mouillées, mais elle est pas sèche complètement. Cette chaussée, on est sur une de voie, on rentre à Nîmes à l'instant même sur cette longue ligne droite où derrière nous, eh bien il y a cette échappée avec Elmiger et avec Bauer. Ils sont à bloc, ils la jouent contre la montre, les mains en bas du guidon, mais dans cette longue ligne droite, eh bien on voit bien désormais l'avant-garde du peloton sur la largeur de la route qui est en train de se rapprocher de pour les avaler au bon moment. Attention, parce qu'on passe des successions de ronds-points là actuellement. Il y a des bandes blanches par terre. Ça peut être glissant pour le final de cette étape, pour l'avant de la course et pour le peloton certainement quand il sera regroupé tout à l'heure.
Merci Georges, à tout à l'heure à l'arrivée. 5 km 500 de l'arrivée et nos deux hommes de tête qui font de la résistance, mais leur avance n'est plus très conséquente, Fred.
Oui, 35 secondes au dernier pointage, un peu plus de 5 km de l'arrivée. Les deux vaillants du jour, Elmiger a été désigné le plus combatif, lui qui a lancé cette échappée il y a maintenant plus de 200 km tout à l'heure à la sortie de Tallard dans les Hautes-Alpes, une étape qui a traversé les départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et maintenant du Gard. Ça roule très vite à l'avant de ce peloton, un peloton qui s'étire. 35 secondes au dernier pointage. Les Lotto Bellisol d'André Greipel sont relayés par les Omega Pharma de Matteo Trentin qui a déjà remporté une étape, c'était à Nancy sur ce Tour de France, lui qui s'était imposé à Lyon également, l'Italien. Accélération à l'instant sur la droite de la route de Tony Martin, justement l'un des équipiers de Matteo Trentin chez Omega Pharma. Le voilà, lui, le meilleur rouleur du monde, peut-être dans un exercice qu'il affectionne, lui qui négocie un rond-point en ce moment avec un virage à 90 degrés sur la route. Tony Martin va-t-il nous faire le coup d'un Cancellara, d'un Van Hooydonk, ses finisseurs il vient d'emmener dans sa roue un coureur de l'équipe Lotto Bellisol, peut-être Jürgen Rolands, tandis que les Katyusha d'Alexander Christophe veillent au grain. Ils sont en train de prendre en chasse le contre-attaquant Tony Martin.
Ah oui, il faut pas lui laisser beaucoup de temps à ce Tony Martin, Cyril.
Oui, effectivement, cet homme est dangereux, mais il est marqué à la culotte donc par un équipier de Greipel qui ne le relaie pas, donc ça va rentrer dans le rang à 4 km de l'arrivée, et les échappés ont toujours 30 secondes.
Et oui, toujours 30 secondes, hein, ils font un véritable contre-la-montre à deux.
Il résiste, effectivement, Luc Leblanc qui a été surpris par l'évocation du nom de Van Hooydonk. Si vous voulez d'autres finisseurs de mémoire comme ça, il y avait Van der Arden qui était capable de faire le kilomètre. Yelena Idam également, souvenez-vous de ce coureur. Pour l'instant, Tony Martin est en train de se relever. Il a compris que la chasse était menée bien trop fort, à bien trop vive allure par l'équipe Katyusha. On aperçoit l'Italien Luca Paolini et sa barbe si caractéristique. On est à 3 km 700 de l'arrivée et le duo Bauer-Elmiger se relaie toujours. 30 secondes au dernier pointage à l'entrée de la ville de Nîmes.
Ils s'entendent parfaitement, Cyril. Nous sommes à 3 500 de l'arrivée, 30 secondes. Est-ce qu'ils peuvent encore y croire, une seule seconde?
Oh, 30 secondes à 3 km de l'arrivée. Il faudrait qu'ils aient 30 secondes à moins de 3 km de l'arrivée.
Alors qu'il y a un autre coureur de la formation
Omega Pharma, oui, il me semble comme ça que c'est Yann Bakelands, le Belge de l'équipe managée par Patrick Lefebvre, lui qui avait surpris son monde l'an passé. Souvenez-vous, lors de la deuxième étape en Corse, c'était à Ajaccio. Il est passé de la formation Radio Shack à l'équipe belge Omega Pharma. Après Tony Martin dans cette équipe belge, c'est bien Yann Bakelands qui tente de faire le final à 3 km de l'arrivée. L'avance des deux hommes de tête, Martin Elmiger, Jack Bauer, est de 28 secondes.
Mais ça descend pas très vite quand même.
Non, peut-être vont-ils résister. Seul problème pour les deux fuyards, les Cannondale sont en train de prêter main forte aux Katyusha à l'avant du peloton. Les Cannondale de Peter Sagan. Sagan maudit de ce Tour de France, lui qui collectionne les deuxièmes places au nombre de 4, me semble-t-il. Peter Sagan qui fait rouler deux équipiers. Yann Bakelands qui se relève à l'instant, relayé une nouvelle fois par Tony Martin, le solide rouleur allemand. Les coureurs de l'équipe Omega Pharma ne misent pas sur le sprinter Matteo Trentin. Ils se succèdent à l'avant du peloton pour attaquer encore.
C'est un beau travail d'équipe, ça, Cyril, de la part de la formation Omega Pharma. Hein.
Eh bien, ils tentent en fait deux choses. C'est-à-dire qu'on a vu dans un premier temps, on a vu le Polonais Jartowski attaquer tout à l'heure. Après, on a vu Tony Martin, Backlund et Tony Martin à nouveau. Ils imposent donc aux autres équipes de sprinters de faire les efforts et tout en ne roulant pas en tête de peloton. Et si on les laisse partir, ils peuvent éventuellement aller chercher la victoire d'étape.
Et un autre coureur qui vient d'attaquer, mais qui est en train de vivre une désillusion, c'est Daniele Benatti, l'Italien de l'équipe Tinkoff Saxo, inspiré par la victoire de son équipier Rafał Majka hier à Risoul. Il a attaqué dans le final avec Tony Martin une nouvelle fois et il a constaté en secouant son vélo qu'il avait crevé de l'arrière. Crevaison à 2 km de l'arrivée alors qu'il était en train d'attaquer. Il laisse Tony Martin seul en contre-attaque à 20 secondes derrière le duo de tête.
20 secondes au dernier pointage. Nous sommes à 1 km 600 de l'arrivée de cette étape et les deux hommes de tête qui continuent de se relayer parfaitement. Il faut se relayer comme ça jusqu'à combien? 300 mètres de l'arrivée, Cyril, s'ils veulent espérer, mais là ça continue de descendre. 17 secondes au dernier pointage.
Oui, là, il faudrait d'ailleurs qu'il y en ait un qui se sacrifie pour l'autre, mais ça n'est pas évident, car à aucun moment il va falloir qu'il lève le pied pour préparer le sprint.
Et ça va se regarder un petit peu, et puis voilà, et ça risque de revenir dans les 500 derniers mètres.
La brouille, ce sera trop court.
Ouais,
mais ils en ont encore 15.
Encore 15 secondes, nous sommes à 1 km 200 de l'arrivée. Les deux hommes de tête qui vont passer dans un instant sous la flamme rouge indiquant le dernier kilomètre. Ils continuent de se relayer. Elmiger qui prend le relais de Bauer. La flamme rouge du dernier kilomètre à l'instant même.
Intégral Tour, la flamme rouge.
13 secondes d'écart au dernier pointage entre les deux hommes de tête et l'avant-garde du peloton. Vont-ils résister au retour de Tony Martin, Fred?
Tony Martin, le vainqueur de l'étape de Mulhouse, lui qui nous avait fait une énorme impression le jour où Tony Galopin s'était paré de jaune. Tony Galopin qui fait partie des équipiers de Greipel sprinter, tout comme Kittle, tout comme Sagan, tout comme Alexander Christophe. Ils peuvent encore rêver, mais à 700 mètres de la ligne, le duo tête Jack Bauer et Martin Elmiger, le néo néo-zélandais et le suisse comptent toujours une dizaine de secondes d'avance. Ça peut suffire, Jack Bauer qui roule toujours avec le champion de suisse dans sa roue.
Un véritable contre-la-montre à deux pour les deux hommes. Un virage là sur la droite, le peloton qui a du mal à revenir, même toujours emmené par les Omega Pharma, alors que maintenant ce sont les coureurs de la formation Europcar pour Brian Cocard qui tente de revenir sur les deux hommes de tête.
On est à 400 mètres de la ligne d'arrivée pour les deux hommes de tête. Martin Hendiger qui tente de fausser compagnie à son compagnon d'échappée Jack Bauer derrière. Kevin Reza a fait le travail pour Brian Cocard. Les Omega Pharma ont pris le relais et c'est Mark Renshaw, l'Australien, qui est en train de lancer le sprint. Les deux hommes de tête sont absorbés. Mark Renshaw qui lance sur la droite, André Greipel à gauche, Alexander Kristoff au centre. Alexander Kristoff déjà vainqueur à Saint-Etienne qui va être débordé dans le final. Non, il s'impose. Deuxième victoire pour le Norvégien sur ce Tour de France. Alexander Kristoff, vainqueur de Milan-San Remo au printemps, vainqueur de l'étape à Saint-Etienne il y a trois jours, qui s'impose ici à Nîmes au terme d'un sprint parfaitement mené. On a vu Renshaw, l'Australien d'Omega Pharma, lancer d'un peu loin. On a vu Greipel tenter sa chance sur la gauche de la route. Et c'est bien l'homme en forme de cette fin de deuxième semaine sur le Tour de France, Alexander Kristoff, qui s'impose devant l'Allemand Heinrich Hössler de l'équipe Yam Cycling. Il me semble que le maillot vert Peter Sagan prend la troisième place. Brian Cocard est dans les cinq, il est dans les billes. Brian Cocard, le jeune sprinter de l'équipe Europcar, il me semble qu'il vient faire quatrième devant, derrière Kristoff, Hössler et Sagan, des références.
Et oui, donc une nouvelle victoire d'Alexander Kristoff. Marcel Kittel, où est passé Marcel Kittel? On ne l'a pas vu, hein. C'est lui qu'on attendait évidemment pour la victoire d'étape aujourd'hui, le roi des sprinteurs. Cyril, je te demandais tout à l'heure si la hiérarchie pouvait changer, il semble quand même que Kittel soit une jambe en dessous par rapport à son début de tour.
Oui, et j'avais évoqué également Kristoff qui était arrivé depuis quelques jours et qui vient tout simplement, il est en train de prendre le pouvoir dans les arrivées au sprint.
Brian Cocard qui fait sixième derrière Brian. Alexander Kristoff. Donc Heinrich Hössler, l'Allemand qui reverdit cette fin de deuxième semaine, l'Allemand coureur de l'équipe Yam Cycling qui s'était imposé, on s'en souvient, il y a quelques années à Colmar sous le déluge au terme d'une arrivée d'une étape vosgienne. Hössler deuxième, troisième le maillot vert de Peter Sagan, l'Allemand André Greipel champion d'Allemagne est quatrième, Mark Renshaw l'Australien de l'équipe Omega Pharma est cinquième, Brian Cocard premier français sixième, Romain Feillu, le coureur de Bretagne séché, est huitième. Et puis Jack Bauer, admirable.
C'est terrible
admirable d'abnégation. Jack Bauer qui a fait plus de 210 km à l'avant de la course en compagnie de Martin Helmiger vient prendre une honorable dixième place. C'est le lot, certes cruel, mais c'est le lot des longues échappées comme ça sur ces journées promises au sprint.
Mais là, Cyril, ça se termine tellement proche. Ils auraient pu, à 500 mètres près, ils pouvaient remporter la victoire d'étape. Le peloton, quand même, calculer au plus juste là. Hein.
Oh là, ils ont même joué avec le feu. C'est même pas calculé au plus juste. Non, ils ont joué avec le feu. Imaginez qu'il y ait un petit accrochage dans un petit rond-point à 1 km de l'arrivée ou à 1,2 km de l'arrivée, voire même dans le dernier virage, un petit accrochage et les échappés allaient au bout.
Et oui,
Jack Bauer exténué derrière la ligne d'arrivée, des images assez saisissantes.
Ah, c'est très dur.
Il est allé au bout. C'est lui qui a été le dernier à résister. Peut-être que ça aurait été à lui qu'on aurait dû attribuer le prix de combatif du jour, un prix attribué à son compagnon d'échappée, le Suisse Martin Helmiger. Ils ont occupé les avant-postes toute la journée sous des déluges parfois sur cette journée marathon à la veille de la journée de repos. C'est bien au sprint que s'est achevé cette 15e étape ici à Nîmes, et après la victoire de Cavendish en 2008, c'est à nouveau un bolide des derniers hectomètres, à savoir le Norvégien Alexander Kristoff, de s'imposer ici devant l'Allemand Hössler, Sagan, Greipel, Renshaw. Brian Cocard est 6e. Évidemment, aucun changement au classement général. Vincenzo Nibali a passé une journée relativement tranquille, bien entouré par sa formation Astana, même sur les journées de transition. Nibali est parfaitement épaulé, ça sent très très bon. Chaque jour passé pour le maillot jaune est une journée gagnée.
Cyril, une fin d'étape un peu décevante. On aurait espéré peut-être un peu plus de choses aujourd'hui. Là, ça s'est terminé par un sprint. On aurait espéré, pourquoi pas, une victoire des échappés, ou pourquoi pas un coup de bordure. Finalement, il n'en a rien été. La montagne de Nîmes, il n'y en a pas vraiment de montagne, mais a accouché d'une petite souris ici. Hein.
Non, mais ça a été très tendu, hein, Kristoff. On avait tous pronostiqué, y compris ceux qui connaissent quelque chose au vélo. Une arrivée au sprint, on l'a eu, mais c'est vrai que ça a été ça a été très tendu pendant les 70 derniers kilomètres avec la menace de ce vent, avec la pluie et puis avec ces deux hommes que l'on a eu du mal à aller chercher. On les rejoint quand même qu'à 50 mètres de la ligne. Donc ces coureurs un petit peu avantagés par la pluie, parce que vous savez, lorsqu'il pleut, lorsque vous êtes échappé, vous prenez les virages à la même vitesse que le peloton, voire même plus vite que le peloton, puisque on a pu voir que le peloton était très prudent sur les différents ronds-points, alors que les hommes de tête étaient à la limite de la chute. Donc ce final sous la pluie avantageait les échappés. Malheureusement, le peloton pour eux est revenu, mais on avait tous pronostiqué une arrivée au sprint. On l'a eu, ouais. Mais on a eu quand même beaucoup d'émotions, beaucoup de tensions, beaucoup de stress, et surtout nous, d'une part, qui commentons, mais je peux vous dire que dans le peloton, il y en a qui sont très contents ouais. de ne pas avoir perdu de temps et de ne pas avoir été tapé le bitume.
Très bien, merci Cyril pour cette analyse claire et précise. La désillusion, la terrible désillusion pour Jack Bauer, le coureur néo-zélandais qui a bien cru tenir sa victoire d'étape aujourd'hui. Il est là à l'arrivée complètement déconfit, notre ami Jack Bauer.
Oui, alors pourquoi ne pas donner la prime de la combativité aux deux hommes?
Parce que le prix a été, comme c'est le cas chaque jour, a été attribué avant même que la ligne soit franchie.
Oui, mais indépendamment de ça, ils sont partis au départ ensemble. Oui. Ils se font rejoindre à 50 mètres, un à 65 mètres, l'autre à 45 mètres.
C'est ce que je voulais poser comme question.
Bah, écoutez, je suis désolé, on les met ensemble.
Et exactement. Puis,
ils ont le grand prix de la
on se posera la question dans quelques instants. Faut-il réformer le prix de la combativité?
C'est évident.
C'est évident par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, oui.
Très bien. Allez, on va se quitter quelques instants. On rappelle donc la victoire d'Alexander Kristoff, le Norvégien de la formation Katusha, qui signe là un deuxième succès d'étape sur les routes de ce Tour de France. Et évidemment, Vincenzo Nibali conserve son maillot jaune. Aucun changement au classement général à l'issue de cette 15e étape. Demain, c'est journée de repos bien méritée avant d'attaquer le plat de résistance de ce Tour de France. Les trois étapes pyrénéennes à partir de mardi. On va évidemment parler de ces étapes pyrénéennes dans un instant, jusqu'à 18h avec toutes les équipe de l'Intégral Tour. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Cessieux.
Et oui, l'intégral tour au terme de la 15e étape de ce Tour de France qui vient donc de s'achever ici à Nîmes au terme de 222 kilomètres proposés aux coureurs de ce Tour de France. C'était l'une des étapes les plus longues de ce Tour de France. Une étape, une nouvelle fois, marquée par quelques frayeurs pour les leaders parce que la météo n'a vraiment pas été très favorable aujourd'hui. Même si, dans le final, les nuages ont laissé place au soleil. Le soleil est revenu ici sur la ligne d'arrivée à Nîmes. On a même perdu une bonne dizaine de température, des conditions idéales pour terminer cette étape. On rappelle, Fred, la victoire donc d'un Norvégien qui s'impose pour la deuxième fois sur les routes de ce Tour de France 2014.
Oui, Alexander Kristoff, 27 ans, coureur norvégien de l'équipe russe Katusha, c'est un triste clin d'œil de l'histoire, est un lance-missile russe, rappelons-le, la formation Katusha qui brille par un Norvégien, Alexander Kristoff, qui devance ici sur la ligne d'arrivée l'Allemand Heinrich Hossler de l'équipe Yam. Peter Sagan, le maillot vert, vient prendre une énième place d'honneur sur ce Tour de France. Sagan troisième devant le champion d'Allemagne André Greipel. Marc Renshaw, l'Australien de l'équipe Omega Pharma, est cinquième. Premier français, Brian Coquard, bien aidé dans le final, on l'a vu, par son coéquipier Kevin Reza. Autre français dans le top 10, il s'agit de Romain Feillu, l'ancien maillot jaune Romain Feillu, qui court cette année sous le maillot Bretagne séché. Alexander Kristoff qui remporte sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France cette année après son succès il y a trois jours à Saint-Etienne. Lui qui, on le rappelle, avait remporté Milan-San Remo à la surprise générale l'an passé. Ce Kristoff est en train de s'affirmer au plus haut niveau. Ce n'est plus un outsider pour les Kittel, les Greipel, les Sagan ou les Cavendish quand Cavendish est en course. C'est bien l'un des leurs. Alexander Kristoff sur ce Tour de France est entré dans le Gotha du sprint mondial.
Alors que Jack Bauer en finit plus de pleurer, Lucho, vraiment terriblement déçu, le coureur néo-zélandais qui a fait toute la course en tête et qui s'est fait reprendre à quelques mètres de la ligne d'arrivée. C'est très dur quand on est échappé. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça. Toi, tu t'es échappé surtout en montagne, donc en montagne on ne te revoyait pas. Mais pour les baroudeurs comme ça, quand on peut espérer remporter une victoire, qu'on a poussé sur les pédales pendant tant de temps, se faire reprendre comme ça, c'est affreux.
Ouais, c'est terrible, d'autant plus qu'ils ont fait 210 km d'échappée et de se faire revoir à 50-100 mètres de la ligne d'arrivée, c'est horrible et ça va être dur à digérer pour les deux coureurs. Mais c'est comme ça, c'est la loi du sport, c'est la loi du Tour de France. Les équipes de sprinteurs ne font aucun cadeau et ils ont eu du mal à mettre en route à un moment donné. Ça s'était regardé un petit peu et c'est vrai que les deux devant avaient pris l'espoir de pouvoir peut-être arriver et se départager la gagne ensemble et malheureusement ça s'est joué à quoi, à rien du tout quoi. C'est comme ça. Ouais. Il va pas passer une bonne nuit, je pense. Il va pas bien manger ce soir.
Il a explosé quand même en Mondovision.
Pierre-Yves Leroux est derrière la ligne d'arrivée. Je crois qu'il est aux côtés du directeur sportif de la formation AG2R.
Oui, Julien Jourdi, qu'on va écouter effectivement.
Il est bien positionné, notamment dans la région de Cavaillon.
L'objectif quand même, c'était peut-être de piéger Thibaut Pinot, qu'on sait qu'il craint ces étapes-là.
Ouais, c'est clair. En priorité, c'était d'une part de nous, de ne pas se faire piéger nous. Et puis après, bien sûr, si Thibaut Pinot se trouvait à l'arrière, ça aurait été, en guillemets, la cerise sur le gâteau. Mais bon, voilà, avant tout, on s'occupait de nos leaders sans savoir où était Thibaut Pinot. Voilà, c'est pour ça qu'on a bien voulu rester à l'avant, bien positionné pour pas prendre de risques.
C'était trop localisé, peut-être
Ouais, trop localisé, l'orage. Et puis, il y avait quand même pas mal d'arbres après Cavaillon jusqu'à pratiquement Tarascon. Puis après Tarascon, on avait l'info qu'il n'y avait plus de vent après Tarascon. Donc, c'est clair que c'était difficile. Le seul endroit que ça a pu se faire, c'est dans la région de Cavaillon, notamment avant, après Gordes. Voilà, on a vu pas mal de vent dans cette région-là. Voilà, on était bien positionné, mais bon, pas de gros dégâts. Tant mieux pour le peloton.
Sacrée journée de transition. Maintenant, la journée de repos pour vos deux leaders. C'est quoi le programme?
Ben effectivement, ça va faire du bien. On arrive à une semaine du tour, de la fin du tour. On va pouvoir bien se reposer demain. Et le programme va être classique, hein, 1h30 de vélo demain matin, du repos l'après-midi, une petite conférence de presse avec vous. Et puis voilà, et puis on fera le débriefing demain soir tous ensemble avec les coureurs pour fixer les objectifs de ces dernières semaines.
Voilà la réaction de Julien Jourdi, garé avec sa voiture sur ce grand boulevard qui emmène jusqu'au bus. Et j'essaye de surveiller un petit peu, mais les coureurs, vous le savez, c'est souvent le cas d'ailleurs, avant les journées de repos, ne traînent pas du tout sur la ligne et filent directement au bus. Impossible de les arrêter là, surtout sur un sprint qui était assez compliqué. Brian Coquard n'a pas voulu s'arrêter.
Pourquoi sont-ils si pressés, messieurs, les anciens coureurs? C'est les épouses, c'est la famille qui sont
non,
là?
Non, parce qu'ils sont complètement mouillés, ils doivent avoir un petit peu froid, ils n'ont qu'une envie, c'est de vite rentrer dans le bus et aller à l'hôtel pour récupérer le maximum et pouvoir profiter de la belle journée de repos qui s'ouvre à eux.
D'autant que l'hôtel n'est pas à Nîmes ce soir, il va falloir faire un peu de route, puisque tout le monde va aller dormir à Carcassonne, aux alentours de Carcassonne ce soir, pouvoir profiter un peu plus de la journée de repos demain, donc ça fait quand même deux heures et demie de route.
Deux heures de route, et en plus avec la circulation, on connaît l'autoroute qui passe sur Montpellier, il y a toujours beaucoup de circulation sur cette autoroute.
Oui, l'autoroute vous avez
la réponse, hein, c'est qu'effectivement il y a entre 2 et 3 heures de route pour rejoindre Carcassonne, compte tenu effectivement de la circulation, et donc tout le monde a envie de rentrer vite à l'hôtel. En plus, il faut savoir que, et vous le savez, on a eu la pluie sur les 30 derniers kilomètres, ce qui veut dire que les coureurs sont trempés et qu'il faut donc se changer très rapidement. Donc ça va être difficile pour en choper quelques-uns. Pas vrai, Pierre-Yves?
Mais Pierre-Yves, il a du mal. Il vit une journée galère. C'est pas une journée de transition, c'est une journée galère. De temps en temps, on en connaît comme ça.
Ouais, il faut 20 minutes pour aller de l'hôtel au départ ce matin. On a mis 1h15, 1h30.
Ah, mais c'est toujours un peu compliqué lorsqu'on arrive dans cette région parce que c'est une région de vacances. Il y a énormément de monde. Il y a des embouteillages sur le bord des routes. Il y a des gens en vacances qui viennent voir le départ ou l'arrivée qui se place. Donc, pour les coureurs et pour les suiveurs, c'est pas tous les jours facile, là.
Alexander Kristoff sur le podium. Un Norvégien félicité par un Finlandais. Harri Vatanen a suivi la course, l'ancien champion du monde des rallyes, l'ancien vainqueur du Dakar, Harri Vatanen, qui est installé du côté du Vaucluse, me semble-t-il. Non, plutôt dans les Alpes de Haute-Provence.
Oui, il est dans les Alpes. Oui, il a une ferme dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est en régional qu'il est venu suivre.
En plus, je crois que c'est un élu. Hein.
Cyril, déçu par l'étape d'aujourd'hui où c'est
Pas être déçu parce que
c'est... Mais bon, c'est dommage que cette étape intervienne un dimanche. Hein, là, franchement, les organisateurs du Tour se sont un peu ratés sur ce coup-là. Bon, évidemment, il y a le tracé à prendre en compte. Mais là, un dimanche avec du monde partout sur le bord des routes, du monde devant les télévisions, et ben là, on a eu quand même l'étape en bois du Tour de France 2014.
Oh, n'exagère pas non plus. Attends, mais l'étape en bois, non,
mais attends,
tu veux monter sur le vélo?
Mais non, mais il y a des étapes en bois. On serait, tu t'es, alors, Lucho, est-ce que tu t'es régalé aujourd'hui? Franchement, t'as vécu la plus belle journée du Tour de France 2014.
Mais on peut pas se régaler tous les jours.
Bon alors,
tu t'es pas régalé.
Donc, c'est une étape en bois, c'est bien ce que je dis, espèce d'idiot.
Ah non mais, et il m'insulte en plus. En direct, il y a toute la France est témoin. Je porte plainte.
Je pense que pour demain, il faut que tu prévois un repas de qualité parce que ou demain ou après-demain, puisque demain c'est repos. Mais c'est vrai que hier, avant-hier, t'as eu droit aux meilleures victuailles sur le bord de la route. Hier, c'était les raisins à l'eau de vie. Aujourd'hui, c'était un jambon beurre. Et ben voilà, c'est voilà, on peut pas se régaler. On peut pas se régaler tous les jours, mais on mange quand même.
On va revenir à l'étape, hein, si vous voulez.
Bon, ce Fredo.
Non, on a eu une étape qui partait vraiment pour être la plus ennuyeuse de ce Tour de France. Et puis, on a eu quand même les 70 derniers kilomètres qui n'ont pas été du tout ennuyeux.
Exactement.
Je peux vous dire que pour les coureurs, ça a été la crispation pendant 2 heures.
Ils ont eu peur, hein.
Et je peux vous dire que pour avoir été directeur sportif quelques mois dans ma vie, je peux vous dire que quand vous êtes directeur sportif et que vous êtes dans votre voiture, et je peux vous dire que vous n'emmenez pas large, vous craignez la chute, la crevaison, le fait que votre leader va se faire bordurer. Mais non, je peux vous dire que ça a été très tendu sur le final.
Alors, ça a été très tendu et évidemment les experts comme toi, les esthètes comme toi se sont régalés, mais pour le grand public, bon, c'est un peu...
Oh, je pense que les gens qui nous ont écoutés ou qui regardaient les images sur leur petit rectangle chez eux, non, là je parle pas du...
On parle pas du paysage.
Je parle pas du paysage.
Le
vous faites le Tour de France, vous regardez le paysage.
Sombre, bon, c'est le paysage qui m'a régalé aujourd'hui.
La pluie.
La tension, la nervosité était quand même palpable dans le peloton.
Mais ça a duré 10 minutes.
Ça a duré pour les coureurs jusque sur la ligne. Hein.
Et puis merci à l'équipe Omega Pharma Quickstep qui nous a offert une sorte de feu d'artifice. On a l'habitude de dire que c'est à Carcassonne qu'il faut être pour les feux d'artifice du 14 juillet. On est le 20 juillet. Bon anniversaire. Faire maman, on est à Nîmes ce soir et les Omega Pharma ont mis le feu au final avec Tony Martin qui a attaqué à 2 reprises. On a vu Kwiatkowski, le Polonais, on a vu Jan Bakelands. Ils avaient des cartes à jouer avant le sprint où Mark Renshaw, leur Australien de service, fait 5e. Heureusement qu'il y a des équipes qui ne laissent pas les équipes de sprinteurs gérer et régenter le final des étapes. On vient de voir à l'instant Peter Sagan monter sur le podium. Il enfile un nouveau maillot vert, lui qui a, je viens de compter, raflé aujourd'hui une 10e place dans les 10 premiers depuis le départ du Tour, un 10e top 10 sans aucune victoire toujours, on le rappelle.
Ah, il reste encore quelques petites étapes pour Peter Sagan, alors qu'à l'instant même c'est Romain Bardet qui monte sur le podium protocolaire pour recevoir son maillot blanc de meilleur jeune de ce Tour de France. On rappelle que Romain Bardet est toujours 3e au classement général de ce Tour de France. Fred, on rappelle donc la victoire d'étape d'Alexander Kristoff il y a quelques minutes ici à Nîmes.
Le Norvégien de l'équipe russe Katyusha qui remporte sa 2e étape sur ce Tour de France après son succès à Saint-Étienne il y a quelques jours. Il devance sur la ligne d'arrivée après avoir avalé dans les toutes dernier maître, le néo-zélandais Jack Bauer, rescapé de l'échappée matinale en compagnie de Martin Helmiger. Kristoff qui devance sur la ligne ici au pied des arènes de Nîmes. L'allemand Heinrich Hössler, le slovaque Peter Sagan, Greipel est 4e, Renshaw 5e et puis Brian Cockart est 6e. Aucun classement, aucun changement dans les autres classements, dans le général, dans le maillot à pois, dans le maillot blanc et le maillot vert.
Ok, on se retrouve dans quelques instants, toujours en direct de Nîmes pour débriefer cette 15e étape du Tour de France. Lucho s'est régalé. Venez nous dire au 32-16 si vous avez aussi assisté à la plus belle étape de ce Tour de France 2014. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Christophe Sessieux.
En direct de Nîmes ce soir au terme de la 15e étape du Tour de France, remportée donc au sprint par Alexander Kristoff, le Norvégien de la formation Katusha qui décroche son 2e bouquet depuis le début de ce Tour de France. On attendait, il faut bien le dire, un Marcel Kittel de retour pour une 4e victoire. Fred, Marcel Kittel aujourd'hui non pas aux abonnés absents mais enfin loin de sa place privilégiée, c'est-à-dire la première.
11e seulement Marcel Kittel au terme de cet emballage final ici au pied des arènes de Nîmes, Kittel, qui effectivement n'est plus dans sa forme de la première semaine. Alors ce n'est pas un jugement péremptoire et définitif, puisque l'an passé, on vous rappelle que Marcel Kittel s'était imposé sur les Champs-Élysées. À l'instant,
Vincenzo Nibali.
C'era del forte vento e in alcuni punti c'erano addirittura delle raffiche dove proprio ci spostava letteralmente, quindi era pericoloso, era importante restare davanti anche la ha lavorato proprio
compliqué.
Per tenere sempre le posizioni di testa
e Montreal ha avuto d'occupare le prime posizioni anche lì, bien épaulé
un po' di rischi, pericoli, le rotonde erano un po' viscide,
scivolose, quindi
abbiamo cercato sempre di non perdere le posizioni, di restare tranquilli nelle prime posizioni.
Oui, c'est toujours dangereux de frotter pour rester dans les premières positions.
Purtroppo l'hai preso, non si poteva fare altrimenti.
No, rischi non ne ho presi, però ho cercato di correre sempre abbastanza nelle prime posizioni.
Non, j'ai pas pris de risque aujourd'hui, mais il fallait simplement courir à l'avant et se maintenir. C'était la vigilance qu'il fallait.
Si va al riposo, il secondo, con 4:37 di vantaggio. Come lo affronti?
Demain, deuxième journée de repos avec plus de 4:30 d'avance au classement général.
Sicuramente quello che ha fatto Gimondi è stato qualcosa di epico anche per l'epoca che era, quando loro ancora correvano se non addirittura nelle strade sterrate, quindi che dire, oggi è un ciclismo abbastanza moderno, è cambiato tantissimo, però 4 minuti sono molto importanti.
Il reste toujours des opportunités de faire basculer la course. Je n'ai pas encore gagné le tour.
Non lo sapevo, me l'hai detto te.
Mais avec plus de 4 minutes 30, je peux me révéler assez confiant. Je peux être assez confiant à une semaine de l'arrivée.
Et il a raison d'être confiant, notre ami Vincenzo Nibali, maillot jaune de ce Tour de France. Il a le sourire, il est toujours aussi serein. Il faut dire qu'il est resté une nouvelle fois très vigilant aujourd'hui. Cyril, il fait vraiment le Tour de France parfait, Nibali. Hein.
Jusqu'à maintenant, il n'a fait absolument aucune erreur, son équipe non plus. J'ai presque envie de dire, le seul problème qu'ils ont connu, c'est avec Fuglsang qui a chuté et qui se retrouve donc un petit peu diminué aujourd'hui. Avec l'étape de repos, je pense qu'il va se refaire un petit peu la cerise, se refaire la santé. Mais aujourd'hui, serein, oui, il a 4 minutes 37, c'est quand même mieux que d'avoir 4 minutes 37 de retard. 4 minutes 37 d'avance, ça lui permet d'être serein. Il a une analyse d'ailleurs qui est parfaitement clair, simple, sans chichi, sans langue de bois. Il faut qu'il reste seulement vigilant dans toutes ces étapes comme celle d'aujourd'hui, et surtout dans ces étapes où on aurait plutôt tendance à se déconcentrer. Il faut rester concentré car à chaque moment il peut se passer quelque chose. Donc pour l'instant, pour Nibali, tous les feux sont au vert.
C'est un coureur qui a déjà remporté, on le rappelle, un Tour d'Espagne, un Tour d'Italie. Et ce n'est pas un coureur qui découvre le leadership, qui découvre ce que c'est que d'être en tête du classement général d'un grand tour. Du coup, il sait parfaitement gérer. Son équipe Astana n'est pas la première venue. Elle a à sa tête des directeurs sportifs aussi expérimentés que Martinelli, Giuseppe Martinelli, l'ancien directeur sportif notamment de Marco Pantani chez Mercatone Uno. Le manager, c'est Vino Kurov, qui est rompu aux subtilités du Tour de France chez Astana. Et avec Nibali à sa tête, on sait gérer ces choses-là. A priori, aucun danger pour Nibali.
Aucun danger pour Nibali. Lucho, tu confirmes, a priori, il ne risque rien. Il est sur un nuage depuis le début de ce Tour de France.
Il risque rien.
Il risque comme les autres.
Il risque la chute, il risque plein de choses jusqu'à Paris. Donc voilà, c'est vrai qu'il est intouchable. Il risque rien sur le vélo, la pédale. Après, le Tour, c'est des risques. Hein. On l'a bien vu avec Froome et Contador. Donc ça peut éventuellement le faire aussi pour Nibali.
Alors je vais lancer un petit débat qui va, j'imagine, susciter une réaction violente de Luc Leblanc, parce que dès qu'on parle de ça,
qu'est-ce
ça l'énerve. On va juste aborder le sujet, parce que évidemment, lorsqu'on voit une telle domination, ça suscite toujours quelques petits doutes, et effectivement des doutes sont en train de naître de ça de là, comme c'est toujours le cas depuis maintenant plusieurs années, presque une décennie, mais peut-être plus d'une décennie, le Tour de France et son maillot jaune sont toujours sujets à caution et inquiétude. Alors, est-ce que aujourd'hui, comment on explique une telle domination de Nibali?
Domination,
sur le Tour de France,
il faut pas exagérer.
Ah, il domine.
Il domine.
Ça, tu peux pas dire le contraire. Non, il est au-dessus du lot, deux jambes au-dessus.
Il est au-dessus, mais est-ce que tu as des véritables grimpeurs avec Nibali?
C'est la question.
D'accord.
C'est la question.
Est-ce que Valverde, c'est un véritable véritable grimpeur?
Non.
Est-ce que Richie Porte, c'est un véritable grimpeur? Il s'est fait larguer. Bardet, c'est un jeune, il a besoin de, d'apprendre encore plus pour pouvoir prétendre à rivaliser avec Nibali. Voilà.
Donc sa domination vient principalement de l'absence de Christopher Froome et d'Alberto Contador.
Tout à fait. Tout à fait.
On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Juste quelques précisions.
Alors, Fred, justement, je voulais te poser une question. Allez. Concernant le dossier, puisque tous les coureurs du peloton, en tout cas beaucoup, ont des dossiers plus ou moins chargés.
C'est presque un casier dont on parle
là. Des dossiers judiciaires, casier judiciaire, plus exactement, tu as raison. Qu'en est-il du casier judiciaire, du casier dopage de Nibali? A priori, casier vierge.
Niente, comme disent les Italiens, casier vierge, aucune casserole, comme disent les coureurs. C'est un coureur qui était brillant chez les jeunes, qui a été repéré très tôt, qui a le vélo dans le sang, qui a quitté sa Sicile natale pour aller s'aguerrir sur les terres italiennes dans le nord de l'Italie. Il en a bavé à devoir s'adapter, lui qui parlait sicilien quand il sortait des rangs juniors, à devoir s'adapter aux grosses écoles.
Il m'a peut-être vu gagner là-bas, alors, en Sicile, s'il est sicilien.
Tu veux dire à Agrigente en 94?
Ouais.
Devant Girotto ou devant Cappucci? Devant Cappucci, c'était une belle époque. Effectivement, il y a 20 ans, on célébrera ton titre le 23 août dans le Limousin.
Ça fait quand même 20 ans qu'on célèbre tous les jours sur RMC.
Mais là, il y aura une grosse fête.
Là, il y aura une grosse fête. Une grosse bamboula.
Donc, il viendra avec sa magnifique Skoda, on l'espère en tous les cas.
Au sujet de Vincenzo Nibali, l'héritier de Luc Leblanc, quelque part, casier totalement vierge, un coureur qui allait crescendo dans sa progression, ce qui est rassurant au cours des dernières années des airs cyclistes. On a vu des explosions, on a vu des coureurs que l'on qualifiait de coureurs météores, des coureurs qui devenaient des chevaux de course alors qu'on les avait connus bourrins, ânes, on ne citera pas de noms, mais les ravages...
Ben, parmi les noms qui ont été cités tout à l'heure, il y en a quelques-uns.
Lesquels?
Ben, lorsque vous parliez des championnats du monde...
Ah non, on ne reviendra pas. Hein. C'est Luc Leblanc qui a remporté ce championnat.
C'est pas un âne, c'est pas un bourrin.
Non, ça saurait.
Il montait une progression linéaire pour aller jusqu'au
championnat. Non, Lucho, c'est l'étalon de ce Tour 2014 en plus. Donc ce n'est pas du tout un...
Arrêtez.
Vincenzo Nibali, qui effectivement a la réputation d'être un coureur clean, hyper talentueux, qui sait tout faire sur un vélo. Il a dédié sa vie au cyclisme. Et puis, rappelons que sur cette année 2014, tout n'a pas été rose. Ce n'est pas un coureur qui est en top forme depuis le début de la saison. Il a même reçu, on s'en souvient, un courrier de réprimande, de rappel à l'ordre de la part de Alexandre Vinokourov, son manager chez Astana. Sa première victoire sur la saison 2014, elle a eu lieu le week-end avant le départ du Tour de France. C'était sur les championnats d'Italie. Derrière, la deuxième, la troisième et la quatrième sont venus s'enfiler et se succéder sur les étapes de Sheffield et puis derrière sur Champs-Rousse notamment
la planche
des belles filles, puis Champs-Rousse, les voilà les quatre victoires. Donc effectivement 4 victoires, championnat d'Italie, Sheffield, la planche et Champs-Rousse. Nibali qui a dû s'astreindre à un stage en haute montagne juste avant le Tour de France.
On va retrouver
sa condition.
Pierre-Yves Leroux qui est avec le combatif de l'étape.
Avec Martin Helmiger, le combatif de l'étape, on imagine qu'il y a beaucoup de déceptions. Combatif, ça suffisait pas aujourd'hui.
Bon, quand j'ai parti l'échappée, je pensais pas avoir arrivé jusqu'à presque au bout. Pour ça, c'est aussi pas mal d'aller jusqu'à 100 mètres avant l'arrivée. Mais c'est clair, je pense vraiment au final, ça va jouer jusqu'au bout. Mais bon, on a joué un peu ensemble, fait un poker, et c'est ça qui était pas bien.
Vous pensez que vous avez perdu du temps en hésitant un petit peu, de ne pas vous relayer suffisamment?
Oui, au final, personne ne voulait rouler en bloc, c'est clair. On jouait une victoire d'étape de Tour de France aujourd'hui. C'était pas une petite course. Et pour ça, personne ne voulait rouler en bloc. Le final, 2 km. Et c'était ça le problème. Enfin.
Le fait que la pluie s'arrête aussi, ça vous a désavantagé? Parce que la route est devenue sèche pour le peloton.
Oui, mais bon, on a eu quand même à côté de nous la boucle des ronds-points. C'était bien pour nous. C'était pour ça on a eu aussi la chance. Avec la pluie.
On a vu Jack Bauer effondré, là, qui pleurait tout à l'heure. Vous avez réussi à garder votre calme?
Oui, je pleure pas pour ça. Je suis aussi content parce que je m'ai bataillé toute la journée. J'étais pas super bien aujourd'hui les jambes. J'étais vraiment toujours un peu dans la dure pendant 10, 20 km. Et bon, au final, c'était, oui, On a fait une deuxième place avec Heinrich Hautler aujourd'hui, nous, c'est aussi pas mal.
Merci beaucoup. La réaction donc de Martin Helmiger, alors que Vincenzo Nibali, que vous avez entendu tout à l'heure, est pas très loin, toujours avec son petit siège à se promener. Bah, s'il est là, Christophe.
Oui, on réécoutera.
L'écouter
bien
en direct,
sûr,
il est là,
sûr,
Vincenzo.
Allez, on l'écoute.
Vincenzo, c'était dangereux aujourd'hui encore, il faut être très attentif.
Ma oggi è stata una tappa dove bisognava restare molto attenti.
Oui, il fallait être très attentif aujourd'hui sur cette étape.
Sicuramente mi ha fatto un buon lavoro perché era molto pericoloso.
L'équipe a fait un bon travail.
Con la pioggia, tante curve, rotonde,
pas mal de virages aussi.
Bisognava stare molto attenti.
Il fallait vraiment être très attentif.
Però abbiamo passato una buona giornata.
Et puis finalement, on a passé une bonne journée.
Expliquez-nous votre programme de ce soir et de demain. Qu'est-ce que vous allez faire?
Il programma di domani sicuramente cercare di recuperare. Sicuramente farò un giro in bici insieme a tutti i compagni.
Un petit tour de vélo avec les copains.
Sarà una conferenza stampa e vediamo.
Conférence de presse.
La piscina c'è interdita.
On verra bien.
Cosa ha detto? No, no. No, penserò solo a fare un buon recupero.
Pas de piscine, on n'est pas là pour se divertir, on va récupérer.
Un'oretta, due in bici con i compagni.
Une heure ou deux de vélo, pas plus, avec les coéquipiers.
Mi piacciono i Pirenei, sicuramente è una settimana molto importante quella che si affaccia.
La semaine qui vient est évidemment très importante avec les Pirenei.
Mentre a Otacam, vediamo.
Avec des montées très difficiles comme Otacam, on verra bien.
Voilà, ça sera tout parce qu'on nous a fait de grands gestes derrière.
Oui.
Terminé, pas de questions. Vincenzo Nibali s'en va.
Alors je voulais justement poser une question à Nibali concernant ce temps qu'il passe tous les soirs comme ça au protocole, répondre aux questions des journalistes. Ça se compte en heures au bout du compte.
Pierre-Yves nous disait à l'instant que Nibali se baladait avec une chaise, avec un fauteuil. Pierre-Yves, t'es là, dis-nous tout, j'ai pas suivi.
Ouais, en fait, il a toujours quelqu'un qui le suit avec un fauteuil assez haut qui lui permet d'être assis, d'avoir les pieds qui reposent sur les barrières qui nous séparent de lui d'ailleurs. Et là il termine donc cette longue série d'interviews, c'est avec les télévisions notamment françaises. Ça va se terminer là, ensuite il va pouvoir retourner enfin au bus regarder
les
montres.
Il n'y a pas la conférence de presse avec la presse écrite aussi?
Elle est passée dans un petit camion qui se situe juste derrière nous. Donc là il en termine avec les dernières questions. Ah d'ailleurs je me trompe parce qu'il n'avait pas fait cette interview, je le vois là qui continue à se déplacer. Il va monter maintenant c'est dans le prêt. Petit camion. Alors ça dépend des fois. Hein. De temps en temps, c'est au milieu, suivant les coureurs qui passent. Voilà, on essaye d'organiser aussi cette conférence de presse pour la presse écrite. Donc Vincenzo Nibali vient de monter là dans ce petit camion qui se situe juste à côté de nous. Il va répondre pendant 7-8 minutes environ aux questions des journalistes de la presse écrite qui se situent eux dans la salle de presse.
Et on rappelle que Nibali, depuis le début de ce Tour de France, n'a été que deux jours sans répondre au protocole, sans faire la presse. Cyril, au bout du compte, ça fait beaucoup, beaucoup de temps passé. Mais pour l'instant, tout va bien. On gère ça de manière très professionnelle chez Astana.
Alors, il faut absolument bien le gérer parce que pratiquement, c'est entre trois quarts d'heure et une heure par jour. Alors n'oublions pas qu'il y a aussi les contrôles antidopage auxquels il doit se soumettre, c'est-à-dire qu'il perd pratiquement par rapport à ses adversaires au minimum entre 30 et 45 minutes par jour de repos ou du moins de détente ou de mise en situation confortable pour rentrer à l'hôtel.
Ouais, mais enfin, il y en a beaucoup qui voudraient être à sa place. Moi, je veux bien les perdre les 45 alors, minutes par jour.
Oui, alors tu as tout à fait raison. Il y en a beaucoup qui voudraient bien les perdre ces 45 minutes, mais ça rentre aussi. Il faut le rentrer dans. Vous savez, je dis toujours dans le Tour de France. Tout s'additionne, rien ne se soustrait.
Lucho, tu as quand même perdu 45 minutes dans ta vie puisque tu as été maillot jaune une journée sur les routes du Tour.
Ouais.
Tu t'en souviens?
Je m'en souviens.
De ces 45 minutes, elles étaient longues.
Je suis même pas venu à l'hôtel en hélicoptère.
Oh, la classe. La
et
classe.
Tu n'avais pas vraiment bien géré le fait de porter le maillot jaune. Pardon de te le dire.
Le jour J,
mais...
oui, j'ai eu la fringale, j'ai pas mangé.
Ben oui.
Et j'ai eu la fringale. Non, mais j'ai eu la fringale au pied de la Spin. C'est ce qui m'a fait perdre, peut-être, je sais pas, moi, Cyril te le dira, pas le tour, mais au moins le podium du tour.
T'avais mal dormi. C'était après, la tension du maillot jaune.
Ouais, j'avais dormi tard. Et puis, en plus, les poubelles à 5h du matin, devant la fenêtre. Après, France Télévisions, par contre, Cyril t'exagère. Tu m'as fait rentrer France 2 dans la chambre à 7h du matin.
Hein?
Un règlement de compte 20 ans plus tard.
Hein, Cyril?
Bon, écoute, à 7h du matin,
excuse-moi de t'avoir
dans ma chambre.
Excuse-moi de t'avoir fait perdre le Tour
j'ai
de France.
J'ai pas dit ça.
Allez, le règlement de compte continue, mais hors micro pour nos deux champions, pour la Dream Team Vélo d'RMC. On va vous rappeler le résultat de cette étape dans un instant avec Fred Adam et nous sommes ensemble jusqu'à 18h. À tout de suite. Voilà. C'est donc un Norvégien qui s'impose à Nîmes, un Norvégien au nom russe.
On va commencer à le connaître, Alexander Kristoff, effectivement, le coureur de la formation Katyusha, âgé de 27 ans, qui avait remporté au printemps Milan-San Remo, au nez et à la barbe des meilleurs sprinteurs finisseurs. Il devance ici, devant les arènes de Nîmes, sous le soleil retrouvé après une journée très humide, très ventée, très orageuse. Il devance l'Allemand Heinrich Hössler, coureur de l'équipe suisse Yam Cycling. Peter Sagan, le maillot vert, prend sa 10e place dans le top 10 depuis le départ de Leeds, mais toujours pas de victoire pour le bonhomme vert de ce Tour de France, le leader du classement par points. 4e, le champion d'Allemagne, André Greipel. 5e, l'Australien Renshaw. Le premier français, c'est Brian Coquard, le trublion de l'équipe Europcar. 6e, Romain Feillu est 8e. Et puis au classement général, on l'a vu, aucun changement. Vincenzo Nibali est toujours en maillot jaune, il est en jaune avec plus de 4 minutes 30 d'avance sur son dauphin Alejandro Valverde. Toujours la même situation avec 3 Français dans les 6 premiers du classement général. Bardet 3e, Pinot 4e à 16 secondes de son compatriote. Il y a 5 coureurs en 1 minute 30 au classement général. La 3e semaine dans les Pyrénées s'annonce évidemment passionnante. Pas de changement dans les classements annexes. Rodriguez est toujours le maillot à poids de meilleur grimpeur. Sagan, maillot vert, et Romain Bardet, maillot blanc. L'équipe AG2R la mondiale est toujours en tête du classement par équipe.
Parfait, vous avez été parfait, vous avez été très complet même, mon cher Fred Adam. On va donc se retrouver dans quelques instants. Je vous rappelle que tous les coureurs du peloton ont quitté Nîmes direction Carcassonne pour une journée de repos bien méritée avant la dernière semaine qui sera très riche avec 3 étapes dans les Pyrénées. Le suspense reste entier sur ce Tour de France.
RMC Intégral Tour, Christophe Sessieux.
Toujours en direct de Nîmes ce soir au terme de la 15e étape du Tour de France, remportée donc par Alexander Kristoff. Alors vous le savez, il y a l'étape du Tour de France, donc remportée par Kristoff, et il y avait également aujourd'hui, en ce dimanche, un peu plus loin dans les Pyrénées, l'étape du Tour. Cyril, l'étape du Tour, c'est l'une des plus belles cyclosportives de France, puisque les coureurs sont sur les traces, enfin plus exactement
sur les routes,
devance les coureurs du Tour de France, notamment dans cette étape qui les mènera dans quelques jours dans les Pyrénées.
Oui, c'est le championnat du monde des cyclos qui toute l'année participe également à d'autres randos, mais ce jour-là ils sont sur les routes du Tour de France, ils ont l'impression de faire le Tour de France, et puis ils essayent souvent de faire la meilleure performance possible, non pas par rapport aux autres puisqu'il n'y a pas de véritable comparaison objective, mais au moins de se dire j'ai pu rouler à telle vitesse, j'ai monté tel col en tant de temps, et puis j'ai fini et j'ai mis 5 heures ou j'ai mis 6 heures ou j'ai mis 8 heures, mais c'est surtout par rapport à eux-mêmes qu'ils réalisent cet exploit. Pour certains c'est véritablement un exploit, mais c'est aussi quelque chose de plus important, c'est aussi se donner, quand on est cyclo, un objectif, une raison et un sens à ses sorties cyclistes toutes les semaines.
Alors aujourd'hui c'était donc entre Pau et Otakam, tu connais évidemment, Lucho, puisqu'il y a 20 ans, tu remportais l'étape. Combien tu aurais mis de temps à peu près entre Pau et Otakam?
Je me souviens plus le temps de la montée.
Non, aujourd'hui, tu aurais mis combien? 23 heures?
Là, aujourd'hui, là, je mets une heure au moins.
Ouais. Non, pour aller de Pau à Otakam, tu mets une heure.
Ah non,
en voiture.
En voiture, tu mets une heure. Sachez que l'un des journalistes d'RMC Sport vient d'en finir à Otakam. Il y a quelques instants, Benoît Boutreau, qui m'accompagne tous les week-ends dans l'intégral sport tout au long de l'année, qui lui est un sportif de haut niveau. Il est avec nous, il est en direct d'Otakam. Salut Benoît.
Salut Christophe, salut la Dream Team.
Oh là là, oh la voix.
C'est dur, Otakam.
Au bout du bout, là. exténué.
Alors Benoît qui est un véritable sorti puisqu'il a fait le marathon de Paris il y a de ça quelques temps et depuis eh ben il s'est attelé à une nouvelle tâche, un nouveau défi, faire cette étape du Tour. Comment ça s'est passé Benoît, en combien de temps as-tu terminé l'étape?
Alors je vais être franc avec toi Christophe, j'ai pas vu exactement mon temps, je crois que je suis aux alentours de 8h30-9h. Sachant que moi je suis parti dans le dernier sas parce qu'il y a quand même, il y avait quand même 12 sas de 1000 personnes au départ avec un départ toutes les 8 minutes. Donc nous on est parti à 8h30 et en fait sur les 70 premiers kilomètres jusqu'à Bagnères-de-Bigorre ça a été puisqu'on avait du soleil et de la chaleur. En revanche dès qu'on est arrivé dans les Hautes-Pyrénées on a eu de la pluie et la montée vers le Tourmalet a été très très dure. Et puis après, Otakam, je t'en parle même pas, de la pluie, du vent.
T'as pensé à Lucho dans la montée d'Otakam, non?
Ah oui, Lucho, ouais. Lucho, tu mettrais une heure aujourd'hui, moi j'ai mis une heure et demie, tu vois, pour Otakam. Donc,
d'accord.
J'ai ton temps sous les yeux, Benoît. Tu as donc mis 8h50 et 18 secondes pour faire les kilomètres. Il y en avait quand même un paquet hein, de kilomètres entre Pau et Otakam.
148.
Alors on va demander au druide la performance. Benoît, qui n'est pas un spécialiste de vélo, qui est surtout un spécialiste de course à pied, puisqu'il a fait plusieurs marathons. 8h50 pour sa première grande cyclosportive, c'est pas mal quand même. Déjà arrivé au bout.
Déjà, il faut terminer parce que souvent, il se produit chez les concurrents qui n'ont pas suffisamment d'heures d'entraînement cycliste, souvent un problème de crampes ou un problème de tétanisation musculaire. Donc, dans la mesure où tu as fini, ça veut dire que tu avais suffisamment d'entraînement pour pouvoir aller jusqu'au bout de cette cyclo. Maintenant, lorsqu'on a la condition physique et qu'on est capable de finir des marathons, donc cette condition physique, lorsqu'on a fait suffisamment de vélo, explique ce temps plus qu'honorable de combien
8h50
en continuant à s'entraîner régulièrement une ou deux fois la semaine en faisant du vélo et de la course à pied d'ailleurs, ça ne gêne absolument pas. Je pense que l'année prochaine, tu pourras gagner aux environs de une heure et demie sur le temps
facile,
de cette année,
ouais.
Voire deux heures.
C'est sûr. Voilà, ouais. Bah, il faudra recommencer. Il n'y a plus qu'à recommencer, Benoît, quoi, en gros. Hein.
J'y serai, hein. Je peux te dire que j'y serai. Je suis un peu inquiet pour mon père parce que j'ai lâché dans le col du Tourmalet. Je ne le vois pas arriver, donc à mon avis, ça a été encore plus difficile pour lui.
Il faut faire gaffe parce qu'il paraît qu'il y a des ours là-bas. Hein. Des ours et des loups.
Ça, ouais. Tiens, ça doit être ça, ouais.
On a le temps du vainqueur et le nom du vainqueur. Alors, c'est quelqu'un qui est connu dans le monde du cyclisme, ouais. Parce que c'est un coureur qui a été professionnel. C'est Loïc Herbreteau qui a terminé, lui, en 4h47. Fred.
Oui, je crois pas qu'il ait été pro Loïc Herbreteau.
Il a été à la Creuse.
Il a été stagiaire dans la très modeste équipe Besson Chaussures. C'était en 2000, si mes souvenirs sont bons. Loïc Herbreteau, qui fait partie des piliers du peloton amateur. On va dire que c'est un coureur de l'ancienne génération qui s'est imposé effectivement en combien
4h47
devant un ancien VTTiste qui lui est les cyclos qui vit en Thaïlande le reste de l'année. Il s'appelle Peter Pouli que j'ai visité il y a quelques temps à Chiang Rai là-haut, dans le nord-est de la Thaïlande. Il revient chaque été écumer.
Il est marié avec une Thaïlandaise.
Oui. Bah on rentrera pas dans sa vie privée. Effectivement, ce sont souvent les anciens coureurs pro ou les anciens coureurs d'un très très bon niveau qui viennent passer le temps et se faire plaisir sur.
On a Lilian Gégou qui est dans le top 6.
Voilà, lui aussi l'ancien coureur. De la Française des Jeux et de la formation Bretagne, Lilian Gégou, effectivement. Ce sont des coureurs qui viennent faire office de référence par rapport aux dizaines, aux milliers de cyclos qui viennent s'étalonner avec d'anciens pros. C'est aussi ça le but du jeu sur l'étape du Tour.
Très bien, moi je dis chapeau Benoît. On a dit avec Benji qu'on allait s'inscrire pour les années qui viennent.
Il y a du boulot. Attendez, en ce qui concerne Christophe, mettez en pointillé quand même.
Bravo Benoît, on boit un coup ce soir.
Ouais, bravo
à ta santé.
Benoît, ouais, on va récupérer la bouteille.
Attends-nous, on sera au Takam dans 4 jours. T'as qu'à nous attendre là-haut. Hein. Tu vas faire.
Ah,
ouais,
je travaille demain, Christophe.
Ah oui, c'est vrai. Demain, il y a le journal des sports.
On va faire la Lucho Mobile ensemble là, au Takam.
Allez, on t'embrasse, Benoît. Fais attention dans la descente et va récupérer ton papa. Son papa qui est président d'un club de football d'Orléans qui jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Voilà. Merci, messieurs. Merci à Benoît. Bravo, Benoît. Bravo également à Lucho. Avec sa Lucho Mobilette, il est arrivé jusqu'à l'arrivée aujourd'hui. Cyril, on te retrouve tout à l'heure à partir de 19h pour les débats. Et Fred, si vous voulez le retrouver, ce sera tout à l'heure sur BFM TV à la télé. En attendant, on va retrouver Laurent.
Guédard, lui qui est à Maison Lafitte aujourd'hui pour les courses. Salut Laurent. Voilà, 17h56, on va donc se retrouver tout à l'heure à 19h et puis Cyril Guimard sera dans quelques minutes avec Martial Fernandez qui est là avec nous pour l'Intégral Sport. Salut Martial.
Salut Christophe, bonjour à tous. C'est vrai que Cyril sera là avec nous comme tous les jours, 18h20, le 32-16 pour poser vos questions à Cyril Guimard sur cette étape du Tour, sur l'étape de repos de demain, sur les Pyrénées qui arrivent en début de semaine prochaine. N'hésitez pas, 32-16 ou alors le compte Twitter et le hashtag RMC Live, le journal des sports. Aussi avec toute l'actu sport, c'est juste à 18h05, comme tous les jours. On parlera de la Formule 1, les experts, 18h35, pour revenir sur cette victoire, la première de sa carrière en Allemagne, pour Nico Rosberg, au Grand Prix de Hockenheim. Et puis on aura Jean-Marc Lhermé avec nous, le manager de l'équipe de Clermont, des joueurs de rugby de Clermont qui ont été agressés à l'arme blanche hier soir du côté de Millau.
RMC Intégral Tour.